Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Une île philippine paradisiaque et très touristique, entièrement fermée pour 6 mois, des photos de plages idylliques jonchées de détritus, des villes européennes en manque d'eau, des récifs coralliens en danger, des plongeurs qui se filment au milieu des sacs en plastique flottant entre deux eaux, des paquebots géants qui déversent leurs occupants dans des villes sur l'eau qui s'enfoncent dans le sable, et une industrie mondiale du tourisme qui continue à croître, plus 7% l'an dernier. Ce n'est pas terminé. Les spécialistes du secteur prévoient une augmentation importante du nombre de touristes dans le monde dans les années à venir. Le tourisme de masse est-il le pire ennemi de l'environnement? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Rémi Knafou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de géographie à l'université Paris 1 Sorbonne et vous avez créé et dirigé l'équipe de recherche mobilité, itinéraire et tourisme. Jean-François Rial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG de Voyageurs du Monde et membre du label ATR, Agir pour un tourisme responsable. C'est donc aujourd'hui que l'île philippine de Boracay Island ferme ses portes aux touristes pour 6 mois pour laisser le temps à l'écosystème de se régénérer. C'est la décision du controversé président Rodrigo Duterte qui l'a expliqué avec ses mots à lui, qu'on évitera de répéter ici. Si ça vous intéresse, vous trouverez ça facilement sur Internet. Le tourisme menace-t-il l'environnement? Et la dégradation de l'environnement menace-t-elle le tourisme? Rémi Knafou.
Alors, je ne sais pas si le tourisme menace l'environnement, mais l'homme en général menace l'environnement qui est le sien. Et la première victime, c'est l'homme et son environnement. Ce qui a fondamentalement changé, d'abord, lorsque l'homme intervient quelque part, il transforme l'espace. Bon, en particulier, les espaces touristiques ont été transformés, c'est toute l'histoire du tourisme, effectivement. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est que si je me réfère à ma propre histoire, dans ma toute première jeunesse, quand j'ai commencé à être touriste avec mes parents, il devait y avoir 25 ou 30 millions d'arrivées internationales dans le monde. Et on en a maintenant plus d'1,3 milliard, et encore, là, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que le gros de la masse des touristes ne franchit pas des frontières.
Exact.
Et donc, les grandes masses touristiques aujourd'hui, même si historiquement c'était l'Europe, évidemment, c'est l'Asie maintenant. Ce sont les nouvelles classes moyennes chinoises, indiennes, qui, et c'est un bien, au fur et à mesure qu'elles aspirent elles aspirent au développement, eh bien elles aspirent aussi à accéder à du tourisme, à des loisirs. Et donc, tout cela pèse sur notre environnement.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Une île philippine paradisiaque et très touristique, entièrement fermée pour 6 mois, des photos de plages idylliques jonchées de détritus, des villes européennes en manque d'eau, des récifs coralliens en danger, des plongeurs qui se filment au milieu des sacs en plastique flottant entre deux eaux, des paquebots géants qui déversent leurs occupants dans des villes sur l'eau qui s'enfoncent dans le sable, et une industrie mondiale du tourisme qui continue à croître, plus 7% l'an dernier, ce n'est pas terminé. Les spécialistes du secteur prévoient une augmentation importante du nombre de touristes dans le monde dans les années à venir. Le tourisme de masse est-il le pire ennemi de l'environnement? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Rémi Knafou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de géographie à l'université Paris 1 Sorbonne et vous avez créé et dirigé l'équipe de recherche mobilité, itinéraire et tourisme. Jean-François Rial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG de Voyageurs du Monde et membre du label ATR, Agir pour un tourisme responsable. C'est donc aujourd'hui que l'île philippine de Boracay Island ferme ses portes aux touristes pour 6 mois pour laisser le temps à l'écosystème de se régénérer. C'est la décision du controversé président Rodrigo Duterte qui l'a expliqué avec ses mots à lui, qu'on évitera de répéter ici. Si ça vous intéresse, vous trouverez ça facilement sur Internet. Le tourisme menace-t-il l'environnement? Et la dégradation de l'environnement menace-t-elle le tourisme? Rémi Knafou.
Alors, je ne sais pas si le tourisme menace l'environnement, mais l'homme en général menace l'environnement qui est le sien. Et la première victime, c'est l'homme et son environnement. Ce qui a fondamentalement changé, d'abord, lorsque l'homme intervient quelque part, il transforme l'espace. Bon, en particulier, les espaces touristiques ont été transformés, c'est toute l'histoire du tourisme, effectivement. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est que si je me réfère à ma propre histoire, dans ma toute première jeunesse, quand j'ai commencé à être touriste avec mes parents, il devait y avoir 25 ou 30 millions d'arrivées internationales dans le monde. Et on en a maintenant plus d'1,3 milliard, et encore, là, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que le gros de la masse des touristes ne franchit pas des frontières.
Exact.
Et donc, les grandes masses touristiques aujourd'hui, même si historiquement c'était l'Europe, évidemment, c'est l'Asie maintenant. Ce sont les nouvelles classes moyennes chinoises, indiennes, qui, et c'est un bien, au fur et à mesure qu'elles aspirent elles aspirent au développement, et bien elles aspirent aussi à accéder à du tourisme, à des loisirs. Et donc, tout cela pèse sur notre environnement.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2. Documents sonores. Première écoute.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, que révèlent nos lieux de vie? Quelle révolution des intérieurs? A priori, dormir, manger, se laver, se retrouver en famille, voilà les fonctions de base d'une habitation, et si possible en toute sécurité. Et pourtant, nos lieux de vie évoluent au fil des générations et de la technologie d'ailleurs, et c'est ce que révèle un psychiatre, Patrice Huer, bonjour.
Bonjour.
Et un expert immobilier, François Robine, bonjour.
Bonjour.
Un couple d'enquêteurs tout de même pas banal, hein, tous les deux. L'un recueille les confidences les plus intimes, et l'autre visite des appartements et des maisons, de quoi nous faire des révélations. J'espère que vous allez nous en faire. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on suivra aussi en reportage un squatteur professionnel, Aladin Charny, 34 ans. Il ne paie pas de loyer depuis 12 ans. Il vit dans des squats. Il fait partie de ceux qui ont choisi ce mode de vie précaire assez surprenant. Alors je vous lis quelques messages. Adams est à Cocody, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il nous dit « Ah, la maison, c'est vraiment le lieu vers lequel on retourne toujours. Elle constitue un lieu de protection, de repos et même de rencontre avec nos proches. C'est aussi le reflet de ce que nous aimons et ce vers quoi nous aspirons. » Après, dans la réalité, hein, c'est pas toujours la même chose. Le mot « maison », c'est vrai, est toujours un mot employé. Même si on habite dans un studio de 15 mètres carrés, on dit on rentre à la maison.
Hein. Et les enfants dessinent toujours des maisons quand on leur demande de dessiner l'endroit où ils vivent.
C'est vrai, vous
même
avez raison.
Même s'ils vivent en appartement.
Exactement, oui. C'est le pédopsychiatre qui parle, Patrice Huer. Kevin est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. J'ai mon chez-moi, j'y suis très heureux. Surtout quand j'arrange bien ma chambre. Je m'installe avec mon smartphone près de mon lit, après avoir pris une bonne douche. Et là, je me sens bien, la vie est belle. Vous noterez le smartphone. Hein.
Oui, oui, toujours présent.
Germain à Kisangani, également en République démocratique du Congo. « Moi, j'ai honte de ma maison », nous dit Germain. « Chez nous, au Congo, pour avoir une belle maison, il faut être soit politicien, soit homme d'affaires. Je vis avec ma famille dans une maison en tôle et on se contente de ce qu'on a. Nous sommes 2 à 3 par chambre et il est preneur de petits conseils pour se sentir mieux dans sa maison. » Est-ce que le psychiatre a un conseil, Patrice Huer?
C'est la question de l'intimité, surtout. Quel âge a-t-il?
Il n'a pas de... Si, il a 24 ans, Germain.
24 ans, c'est un âge où on a besoin aussi d'espace un peu privé et on n'est pas... Et de ne pas partager tout. Donc, je sais pas, peut-être mettre des tissus qui séparent les lits, si c'est dans une seule pièce, quelque chose qui préserve un petit espace privé dans un ensemble qui ne l'est pas trop.
Ouais, reconstituer la fameuse caverne. Vous en parlez dans votre livre. Djibril est à Kaï, dans le sud-ouest du Mali. Une hutte de peuls nomades peut donner envie de ne pas en sortir, tout comme une petite surface faite de branches et d'herbes dont l'intérieur est captivant par le décor et l'ordre d'agencement des objets. Vous n'avez jamais évalué de hutte, mais pourtant vous avez évalué beaucoup de lieux insolites.
Mais
vous comprenez le message.
Oui, très bien. La hutte, c'est un peu comme le studio. Il y a des gens qui sont très bien dans leur studio et puis qui font attention à la décoration et qui la changent.
Ouais, cette notion d'espace.
Mais oui, c'est ça. On a plus ou moins besoin, selon son histoire, sa personnalité, sa fragilité ou sa solidité, plus ou moins besoin d'un contenant extérieur, d'un environnement qui va avoir une visée protectrice, un peu comme l'utérus pour le fœtus. Hein, alors que pour d'autres, au contraire, il faudra plus des espaces ouverts, ouverts vers le monde, vers l'extérieur, qui seront très bien supportés et appréciés. Donc
d'ailleurs,
c'est très variable.
Les enfants, souvent, n'aiment pas beaucoup les grands espaces, non?
Ils n'ont pas forcément besoin de ça. Hein. Ils se construisent avec des tissus, un drap, une couverture, sur deux chaises. Ils se font une petite cabane.
Dès qu'il peut, il se construit une cabane, exactement.
Ah, oui.
Donc l'enfant a besoin de recréer une forme de cocon. Non.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, que révèlent nos lieux de vie? Quelle révolution des intérieurs? A priori, dormir, manger, se laver, se retrouver en famille, voilà les fonctions de base d'une habitation, et si possible en toute sécurité. Et pourtant, nos lieux de vie évoluent au fil des générations et de la technologie d'ailleurs, et c'est ce que révèle un psychiatre, Patrice Huer, bonjour.
Bonjour.
Et un expert immobilier, François Robine, bonjour.
Bonjour.
Un couple d'enquêteurs tout de même pas banal, hein, tous les deux. L'un recueille les confidences les plus intimes, et l'autre visite des appartements et des maisons, de quoi nous faire des révélations. J'espère que vous allez nous en faire. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on suivra aussi en reportage un squatteur professionnel, Aladin Charny, 34 ans. Il ne paie pas de loyer depuis 12 ans. Il vit dans des squats. Il fait partie de ceux qui ont choisi ce mode de vie précaire assez surprenant. Alors, je vous lis quelques messages. Adams est à Cocody, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il nous dit « Ah, la maison, c'est vraiment le lieu vers lequel on retourne toujours. Elle constitue un lieu de protection, de repos et même de rencontre avec nos proches. C'est aussi le reflet de ce que nous aimons et ce vers quoi nous aspirons. » Mais après, dans la réalité, hein, c'est pas toujours la même chose. Le mot « maison », c'est vrai, est toujours un mot employé. Même si on habite dans un studio de 15 mètres carrés, on dit « on rentre à la maison
hein. ». Et les enfants dessinent toujours des maisons quand on leur demande de dessiner l'endroit où ils vivent.
C'est vrai, vous
même
avez
s'ils
raison.
Vivent en appartement.
Exactement, oui, oui. C'est le pédopsychiatre qui parle, Patrice Huer. Kevin est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. J'ai mon chez-moi, j'y suis très heureux, surtout quand j'arrange bien ma chambre. Je m'installe avec mon smartphone près de mon lit, après avoir pris une bonne douche. Et là, je me sens bien, la vie est belle. Vous noterez le smartphone. Hein.
Oui, oui, toujours présent.
Germain Kisangani, également en République démocratique du Congo. Moi, j'ai honte de ma maison, nous dit Germain. Chez nous, au Congo, pour avoir une belle maison, il faut être soit politicien, soit homme d'affaires. Je vis avec ma famille dans une maison en tôle et on se contente de ce qu'on a. Nous sommes 2 à 3 par chambre et il est preneur de petits conseils pour se sentir mieux dans sa maison. Est-ce que le psychiatre a un conseil, Patrice Huer?
C'est la question de l'intimité, surtout. Quel âge a-t-il?
Il n'a pas de... Si, il a 24 ans, Germain.
24 ans, c'est un âge où on a besoin aussi d'espace un peu privé et de ne pas partager tout. Donc, je ne sais pas, peut-être mettre des tissus qui séparent les lits, si c'est dans une seule pièce, quelque chose qui préserve un petit espace privé dans un ensemble qui ne l'est pas trop.
Ouais, reconstituer la fameuse caverne, vous en parlez dans votre livre. Djibril est à Kaï, dans le sud-ouest du Mali. Une hutte de peuls nomades peut donner envie de ne pas en sortir, tout comme une petite surface faite de branches et d'herbes, dont l'intérieur est captivant par le décor et l'ordre d'agencement des objets. Vous n'avez jamais évalué de hutte, mais pourtant vous avez évalué beaucoup de lieux insolites.
Mais
vous comprenez le message?
Oui, très bien. La hutte, c'est un peu comme le studio. Il y a des gens qui sont très bien dans leur studio et puis qui font attention à la décoration et qui la changent.
Ouais, cette notion d'espace.
Ben oui, c'est ça. On a plus ou moins besoin, selon son histoire, sa personnalité, sa fragilité ou sa solidité, plus ou moins besoin d'un contenant extérieur, d'un environnement qui va avoir une visée protectrice, un peu comme l'utérus pour le fœtus. Hein, alors que pour d'autres, au contraire, il faudra plus des espaces ouverts, ouverts vers le monde, vers l'extérieur, qui seront très bien supportés et appréciés. Donc
d'ailleurs,
c'est très variable.
Les enfants, souvent, n'aiment pas beaucoup les grands espaces, non?
Ben, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Hein. Ils se construisent avec des tissus, un drap, une couverture, sur deux chaises, ils se font une petite cabane.
Dès qu'il peut, il se construit une cabane, exactement.
Ah, oui.
Donc l'enfant a besoin de recréer une forme de cocon. Non?
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les titres. Vous allez écouter trois documents sonores. Document numéro 1.
Jérôme Wabian, vous dirigez une société qui s'appelle Spirops. Ça fait des années que vous travaillez notamment sur la voiture autonome en intelligence artificielle. Vous faites de la recherche-développement. Votre point de vue sur ce qui s'est déroulé aux États-Unis avec ce véhicule Uber, donc comme on vient de l'entendre, c'est une Volvo, mais c'est une Volvo avec un certain nombre de choses en plus qui ont été développées par Uber.
Oui, bonjour. Bon, déjà, comment on crée un véhicule autonome ? On prend un véhicule du commerce, qui est fonctionnel, etc., hein, qui a été certifié, et on va ce qu'on appelle le robotiser. Mais par contre, il faut bien comprendre que le véhicule, il reste totalement conduisible par un humain. Et ça sera toujours le conducteur qui sera le maître à bord.
Document numéro 2.
Hervé, un monde où roule 100% de voitures électriques, ça ressemblerait à quoi ?
Ça ressemblerait à un monde où les problèmes d'environnement resteraient très importants. Pourquoi ? Parce que les autos, elles ont besoin de métaux, de nouveaux métaux pour fonctionner. Les autos électriques, elles ont besoin de lithium, de cobalt, de graphite pour les batteries. Et puis elles ont aussi besoin de terres rares pour les aimants du moteur, de ces nouveaux moteurs, par exemple le néodymium. Alors si toutes les autos devenaient électriques, ce qui pourrait arriver vers 2040 ou 2050 selon les experts, eh bien la consommation de ces métaux augmenterait énormément. 2900% pour le lithium, c'est-à-dire 29 fois plus, ouais. 1900% pour le cobalt, c'est-à-dire 19 fois plus, et 655% de plus pour les terres rares. C'est du moins ce qu'ont calculé les experts économistes de la banque UBS, l'Union des banques suisses, dans un rapport récent. Alors, ça poserait des problèmes de ressources. D'abord, y aura-t-il assez de ces matières, de lithium, de cobalt, de terres rares ? Et puis, par ailleurs, l'impact écologique de l'extraction minière est toujours très importante, comme on le constate déjà pour le lithium en Argentine ou pour le cobalt en République démocratique du Congo.
Document numéro 3.
Philippe est conducteur de taxi, il vient de racheter un véhicule diesel pour travailler, mais c'est sans doute le dernier.
Je pense pas prendre un diesel après. Peut-être une électrique, essence, hybride.
Et vous changez de voiture à quelle fréquence ?
Alors étant donné que je suis taxi, tous les 4 ans à peu près.
Une autre conductrice se réjouit, son monospace diesel a 6 ans, et dans 2 mois,
on va s'en débarrasser. Donc on va vers l'essence, parce que les hybrides sont beaucoup trop chers. Et en finition, c'est pas si écologique que ça, non plus.
Mais basculer vers l'essence, ce n'est pas à la portée de tous financièrement. Hamid est en train de faire le plein de diesel.
On a un petit budget, donc c'est pour ça qu'on a choisi du diesel. C'était une question de prix à l'époque, donc comme le diesel était moins cher. Après, on va pas passer notre vie à acheter une voiture, changer de voiture, machin.
Surtout qu'aujourd'hui, vendre sa voiture diesel devient difficile.
Document numéro 1, deuxième écoute.
Jérôme Wabian, vous dirigez une société qui s'appelle Spirops. Ça fait des années que vous travaillez notamment sur la voiture autonome en intelligence artificielle. Vous faites de la recherche-développement. Votre point de vue sur ce qui s'est déroulé aux États-Unis avec ce véhicule Uber, donc comme on vient de l'entendre, c'est une Volvo, mais c'est une Volvo avec un certain nombre de choses en plus qui ont été développées par Uber.
Oui, bonjour. Déjà, comment on crée un véhicule autonome? On prend un véhicule du commerce, qui est fonctionnel, etc., hein, qui a été certifié, et on va ce qu'on appelle le robotiser. Mais par contre, il faut bien comprendre que le véhicule, il reste totalement conduisible par un humain. Et ça sera toujours le conducteur qui sera le maître à bord.
Document numéro 2, deuxième écoute.
Hervé, un monde où roule 100% de voitures électriques, ça ressemblerait à quoi?
Ça ressemblerait à un monde où les problèmes d'environnement resteraient très importants. Pourquoi? Parce que les autos, elles ont besoin de métaux, de nouveaux métaux pour fonctionner. Les autos électriques, elles ont besoin de lithium, de cobalt, de graphite pour les batteries. Et puis elles ont aussi besoin de terres rares pour les aimants du moteur, de ces nouveaux moteurs, par exemple le néodymium. Alors si toutes les autos devenaient électriques, ce qui pourrait arriver vers 2040 ou 2050 selon les experts, eh bien la consommation de ces métaux augmenterait énormément. 2900% pour le lithium, c'est-à-dire 29 fois plus, ouais. 1900% pour le cobalt, c'est-à-dire 19 fois plus, et 655% de plus pour les terres rares. C'est du moins ce qu'ont calculé les experts économistes de la banque UBS, l'Union des banques suisses, dans un rapport récent. Alors, ça poserait des problèmes de ressources. D'abord, y aura-t-il assez de ces matières, de lithium, de cobalt, de terres rares? Et puis, par ailleurs, l'impact écologique de l'extraction minière est toujours très importante, comme on le constate déjà pour le lithium en Argentine ou pour le cobalt en République démocratique du Congo.
Document numéro 3. Deuxième écoute.
Philippe est conducteur de taxi. Il vient de racheter un véhicule diesel pour travailler, mais c'est sans doute le dernier.
Je pense pas prendre un diesel après. Peut-être une électrique, essence, hybride.
Et vous changez de voiture à quelle fréquence?
Alors, étant donné que je suis taxi, tous les 4 ans à peu près.
Une autre conductrice se réjouit. Son monospace diesel a 6 ans et dans 2 mois,
on va s'en débarrasser. Donc on va vers l'essence parce que les hybrides sont beaucoup trop chers. Et en finition, c'est pas assez écologique que ça, non plus.
Mais basculer vers l'essence, ce n'est pas à la portée de tous financièrement. Hamid est en train de faire le plein de diesel.
On a un petit budget, donc c'est pour ça qu'on a choisi du diesel. C'était une question de prix à l'époque, donc comme le diesel était moins cher. Après, on va pas passer notre vie à acheter une voiture, changer de voiture, machin.
Surtout qu'aujourd'hui, vendre sa voiture diesel devient difficile.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.